Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle vidéo, on vient de voir The Substance de Coralie Farja. Donc c'est un body horror qui est présenté en compétition, qui n'est pas un genre de film qu'on a l'habitude de voir dans cette sélection-là à Cannes. Le film raconte, enfin part d'un point de départ assez simple, et après il va révéler plusieurs emboîtements, enfin en tout cas ça va partir évidemment un petit peu en vrille. Le film commence avec Elizabeth, qui est jouée par Demi Moore, qui est une actrice un petit peu vieillissante, et qui se fait évincer par son show matinal de fitness ou de danse, on ne sait pas trop, bon, c'est quelque chose de très californien. Qui se fait évincer pour des raisons voilà, évidemment machistes, sexistes. Elle se voit proposer une sorte de solution un petit peu venue d'un film de science-fiction, un petit peu, qui est de prendre une substance qui va en fait créer une sorte de version alternative d'elle-même, plus jeune, plus belle. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas avec, c'est qu'elle doit alterner 7 jours et 7 jours, donc une semaine sur l'autre, avec son double, qui est là joué par Margaret Qualley. Donc c'est un petit peu le grand saut de Coralie Farja, puisqu'elle avait signé un film précédemment, qui était beaucoup plus petit en fait, qui était Revenge, qui est un film beaucoup plus resserré, très direct. Là, on a un film de 2h20, très ample, assez ambitieux. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce passage-là, ce nouveau film, Josué?
Alors, je trouve le film très intéressant, et ce que je trouve intéressant dans la description, c'est qu'on voit tout de suite qu'en fait, le film obéit à des règles un peu décrétées, arbitraires, absurdes. Et d'ailleurs, le film vient avec un mode d'emploi, c'est-à-dire que le personnage reçoit un kit et où il y a un certain nombre d'instructions. Qui explique un petit peu le fonctionnement de cette substance et comment ça marche, quoi, d'une certaine manière. Et moi, j'ai beaucoup pensé devant le film à Can of Kindness de Lanthimos, dont on a fait une vidéo il y a 2 jours, qui fonctionnait un peu sur une logique similaire, c'est-à-dire un récit dont on découvre les règles au fur et à mesure, sauf qu'il y a une différence absolument majeure, c'est que chez Lanthimos, il faut respecter les règles à tout prix et on les remet jamais en question, alors que The Substance, sa dynamique va être exactement inverse, c'est-à-dire que précisément, le but, ça va être de balancer le mode d'emploi, de ne surtout pas écouter les règles et les enfreindre au fur et à mesure, et du coup le film entre guillemets va dérailler, ou plutôt sa structure va se recomposer au fur et à mesure à partir de ces différents moments où le personnage triche avec elle-même, sachant qu'en plus cette histoire de dédoublement est un peu plus complexe, puisque d'une certaine manière ce serait un même corps
qui doit se nourrir de ces deux clones. Enfin voilà, c'est
voilà. Alors on voit très bien en plus hein, le film s'inscrit dans un horizon, ça se passe à Los Angeles, une actrice vieillissante, etc. La question de la désirabilité des corps, de leur vampirisation,
de leur pourrissement,
de tout ce commerce avec ça. On est vraiment sur un pur film de LA, même si Los Angeles n'est pas tant filmé que ça, qui serait dans la lignée, on va dire, de Mulholland Drive, de Map to the Star de Cronenberg. Et à la fois, c'est l'intérêt, à mon avis, la limite du film, c'est que il y a un moment quand même où le film essaie de raconter quelque chose de ce parti pris scénaristique qui serait, en fin de compte, le cinéma, c'est un canard vampirique. Et notamment, il y a un effet qu'on va beaucoup voir, c'est celui vraiment d'un objectif, d'une caméra qui est en train de... une iris qui est en train de se contracter dans une logique de dévoration. Cette logique vraiment... en fait, c'est un motif, ce cercle ou ce tube. En fait, on en voit partout, que ce soit la cabine de douche dans laquelle on retrouve le personnage et son double, que ce soit les tubes, évidemment, qui permettent de transiter les fluides.
Même les caméras sont un peu montrées de cette manière-là,
en fait,
comme un tube.
Les caméras, c'est ça. La caméra, c'est un tube qui avale. Et je pense que là, il y a un malentendu qu'il faut tout de suite, quelque part, adresser. C'est peut-être un peu un anglicisme. C'est-à-dire, est-ce que le film pose un regard critique sur cette dévoration des corps? Est-ce que, du coup, ça serait un film potentiellement féminisme sur ces corps féminins qu'on prend, qu'on jette, qu'on avale, etc. Et là, je trouve que le film est légèrement... je ne dirais pas hypocrite, mais qui peut-être il donne un petit peu dans son dénouement, son trompant défloré, peut-être un peu le bâton pour faire battre, dans le sens où l'intérêt de Farja, qui était déjà dans Revenge, mais qui là est puissance 10, c'est qu'elle n'est pas du tout dans, même si ces films parlent de Rap and Revenge ou abordent la question vraiment du vieillissement des corps féminins et de ce qu'on en fait, elle est du côté de la dévoration des corps. C'est-à-dire c'est un cinéma qui est du côté de la voracité absolue et qui lui-même va épouser le vampirisme que, en sous-main, peut-être, il serait en train de dénoncer. C'est-à-dire qu'il va filmer, par exemple, le corps de Magoculis sous toutes les coutures comme vraiment une espèce d'agencement de courbes voluptueuses, une espèce de perfectionnement de corps. Et le film est totalement de ce côté-là. Il est du côté de la dévoration avec un appétit, une faim qui, à mon avis, fait son intérêt et qui, voilà, on va un peu déplier aussi ce que le film réussit, ce qu'il essaie d'entreprendre, mais qui donne, à mon avis, les meilleures scènes.
Oui, je suis d'accord. Bah, c'était un petit peu ce qui m'avait frappé à la découverte de Revenge, parce qu'on était un peu passé à côté quand il était sorti, en tout cas à l'époque, en 2018, il me semble. Et c'est vrai que j'ai redécouvert récemment.
2017, je crois.
Ouais, 2017. Enfin voilà. Et c'était vraiment l'appétit de cinéma, de style, d'effet qui m'avait frappé. Là, on est dans une espèce d'exacerbation de cet horizon-là. Ça commence en fait pour le coup. C'est un film qui, on va dire, enfle un petit peu comme un corps justement qui s'agrège. qui à la fois se désagrège, se re-remplit. Enfin, il y a un côté comme ça de vomissement, de ravalement. Un petit peu en permanence, c'est un film très alimentaire quelque part. Ça parle d'ailleurs de cuisine à un moment. Où on va avoir voilà, une espèce d'appétit assez gargantuesque, assez dévorant, de toutes les choses, de tous les petits effets qu'on peut avoir dans ce type de style de cinéma. Je reviens sur un point aussi qui était intéressant, c'est comme ça qu'un peu je suis entré dans le film, parce que le début du film fait vraiment penser à David Lynch notamment, et la manière dont il filme un petit peu les corps féminins surtout, se faire un petit peu dévorer par Hollywood, par le Sunset Boulevard un petit peu évidemment en ligne de mire.
C'est intéressant, déjà, il faut le préciser, on n'est déjà plus du côté d'Hollywood, on est du côté de la télé. D'ailleurs il y a quelque chose d'un peu bizarre dans la pulsion du personnage qui est en fait une ancienne star de cinéma.
On voit pas les films qu'elle a fait. Hein,
et en fait, la fin de carrière, plus ou moins, si elle est devenue une espèce d'icône de la fitness à la télé. Et quand elle retrouve un corps qui est encore un corps qui est complètement revitalisé, qui est un corps parfait, même si on entend à un moment qu'elle va tourner dans un film, c'est pas au cinéma qu'elle veut retourner. C'est récupérer déjà cette place-là dans un imaginaire qui serait plutôt celui des années 80. Je pense à ce film avec Jamie Lee Curtis et Travolta où on les voit en train de danser. Je ne me souviens plus le titre, mais qu'importe. C'est pas très important. C'est-à-dire que on en parlait d'ailleurs un tout petit peu avant de préparer cette émission. Si Lynch, dans les années 90, est dans une forme de réingurgitation de l'esthétique des années 50, Farja, elle, en 2024, elle est dans la réingurgitation des années 80. C'est-à-dire qu'il y a les 40 années de... Quelque part, voilà, se sont logiquement déplacées. Et donc, elle est dans la même distance référentielle de Lynch, sauf qu'elle est sur quelque chose qui est beaucoup plus récent et qui, en fin de compte, ne serait plus tout à fait le cinéma. Même si, à un endroit, on peut en parler aussi, le film va essayer, quelque part, de se nourrir de plein de références et de les recracher dans une espèce de magma, notamment dans sa grande séquence finale.
Ouais, et puis, il y a ce côté-là, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, parce que c'est quand même aussi un horizon de cinéma, moi, duquel je viens, c'est le Eraserhead, les séances de minuit ou les films Brain Dead de Peter Jackson. C'est vraiment cette idée de prendre, par exemple, David Lynch pour sa part la plus pourrie, entre guillemets, mais dans le sens du pourrissement, là, ça part un peu vulgaire, c'est-à-dire voilà, filmer des corps nus de très près avec du métal en arrière-plan. Enfin, voilà, il y a une espèce de style un petit peu abrasif, c'est-à-dire qu'elle va pas. Moi, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que c'est une espèce d'antidote à ce qu'on a appelé l'elevated horror, tu sais, sur pas beaucoup de films d'horreur qui tentent en tout cas de s'extraire de ce corpus-là, ou en tout cas de se servir du film de genre pour parler d'autre chose. Ça marche aussi avec le cinéma français d'horreur, en fait, le film de genre français qu'on greffe très souvent avec. Le portrait social, en tout cas un portrait sociétal. Et là, je trouve que le film évite très bien de le faire. Et d'ailleurs, ce que tu as dit au début sur Los Angeles qui n'était pas filmé, c'est une manière aussi de faire le vide autour de cette espèce d'appartement qui est le lieu d'un affrontement un peu anatomique.
Je trouve qu'il y a un petit nœud quand même à cet endroit. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé la question à la moitié du film. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui se met en place qui est en fait assez grossièrement celle du portrait de Dorian Gray. Donc une espèce de logique de dévoration qui se met en place. Et cette dynamique, à mon avis, c'est un peu une impasse. Et donc à un moment, elle fait un truc très bien. C'est qu'elle va lâcher justement cette question du vampirisme pour aller vers, à mon avis, la seule porte de sortie que lui offre son parti pris, c'est-à-dire le grotesque. Et elle va vraiment y aller. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître, contrairement à Ducournau, à qui on va beaucoup la comparer, contrairement aussi à, en effet, toute cette vague qu'on appelle les vêtis d'horreur, mais qui est en fait une horreur qui réfléchit un peu trop, de certaine manière, c'est qu'elle, elle va en tirer un principe de comédie. Et moi, j'aime beaucoup ça, vers la fin, quand elle y va vraiment à fond, et il faut le dire, elle a un appétit vraiment d'humour.
Elle s'arrête pas en chemin, quoi.
Elle s'arrête pas en chemin, mais tout de même, à la toute fin, elle va revenir, et d'ailleurs de manière assez lourde, par des répliques qui se répètent, par des répétitions dans le montage, par une forme de bégaiement, elle va quand même réessayer de réinsuffler, de injecter, si je puis me permettre la métaphore, puisque le film, quelque part, la fournit de manière très simple, de réinjecter un peu du sujet, de réinjecter du vampirisme. Et d'une certaine manière, je pense que le film aurait pu s'arrêter à un moment où ce qu'on voit à la fin est aveuglé par les projecteurs. Et elle va un peu plus loin que ça, elle mélange à la fois Elephant Man, Carrie au bel du diable, même 2001 dans une
référence. Même Vertigo.
C'est très drôle. En revanche, la référence à Vertigo, pour moi, la plus drôle du film, parce qu'elle en tire vraiment un principe de
avec
comédie.
Le maquillage et le cosmétique.
On va raconter vraiment, le surgissement de la musique de Bernard Herrmann, là, il y a un truc vraiment très très drôle qui se joue dans le film. Et le film est globalement, je trouve, assez drôle. Mais tout de même, il y a un peu le même problème que dans Revenge, c'est-à-dire que d'une certaine manière, elle est du côté de la dévoration, elle est du côté du vampirisme, elle y va à fond, mais toujours à la fin, il y a quand même un espèce de petit vernis de sujet, et elle lâche pas, et elle assume pas complètement encore cet appétit qu'elle peut avoir. Et je pense que voilà, il faut encore. Mais en tout cas, c'est une cinéaste prometteuse, et je pense que c'est une cinéaste beaucoup plus prometteuse que Julia Ducournau, qui a eu sa palme d'or pour son deuxième film également, et à qui on la compare beaucoup, et qu'elle a en tout cas, il y a une méthode et il y a une envie qui est beaucoup plus intéressante, et à mon avis, qui peut donner des films à conclure dans les années à venir.
Et je pense qu'en plus, même pour parler très rapidement de la fin, après on pourra conclure, c'est je vois aussi moi cette espèce d'ingurgitation, une espèce de melting pot, quoi, vraiment de référence qui jaillit à la fin comme une espèce d'overdose. Enfin, littéralement, ça rentre et ça ressort d'une manière assez grotesque. C'est un film assez jubilatoire. Donc, forcément aussi, moi je me demande, si je m'interroge vraiment sur est-ce que le film va pouvoir, est-ce que ça fait le même effet à la revoyure ? Voilà, est-ce que c'est des choses qui, au contraire, ne tiennent pas d'une forme de construction un petit peu de la surenchère qui forcément nous impressionne beaucoup dans la manière dont on tire les traits, on tire, on réinjecte jusqu'à ce que ça explose de manière littérale. On va pas en dire plus que ça. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, on est relativement d'accord, même si je pense que je préfère un peu le film à toi, que c'est une belle promesse en tout cas et que c'était quand même aussi un film assez... assez stimulant à voir ici, en tout cas on n'a vraiment pas l'habitude de ça et je trouve assez ça, pourquoi assez audacieux voilà, d'avoir fait ce choix de programmation. On peut s'arrêter là en tout cas, on va passer à la carte blanche et nous on se dit demain pour une nouvelle vidéo.
Alors, pour la carte du blanche du jour, je vais parler de C'est pas moi de Léos Carax, qui est un court-métrage de 40 minutes qui est montré dans la sélection Cannes Première, qui à l'origine était un film commandé par le Centre Pompidou, qui généralement invite des cinéastes et qui leur demande de faire un petit court-métrage dont le point de départ, la question est « Où en êtes-vous ?» Et là, c'est « Où en êtes-vous, Léos Carax ?» Et donc, il en tire un film qui s'appelle C'est pas moi, une espèce de réponse ironique. Je trouve le film très intéressant dans la manière dont il dialogue avec une autre peut-être tendance de la compétition, qui serait celle de Jason Kay notamment, dont Marin Gérard vous a dit du bien hier, qui est un film qui revisite la filmographie de Jason Kay et qui essaye d'enterrer quelque chose de nouveau. Et je trouve, contrairement à mes collègues, que le film de Jason Kay s'adresse vraiment aux fans vraiment hardcore du cinéma de Jason Kay, qui le connaissent un peu sur le bout des doigts, alors que là, au contraire, ce travail de remontage que fait Carax, très étonnamment, peut s'adresser à des gens qui connaissent soit pas très bien ses films, soit qui les aiment pas beaucoup, ce qui est un peu mon cas. Et je dois dire que je suis assez séduit par, alors même s'il y a peut-être un petit problème dans le film, c'est-à-dire par ce travail qui serait celui de l'essai ludique, un peu joueur, un peu rigolo, qui peut faire penser d'une certaine manière à Godard, et je pense que l'inspiration des histoires du cinéma est assez énorme. Et à la fois, ça donne des choses très réussies et d'autres un peu plus ratées, notamment quand il essaye vraiment de faire un peu du Godard, c'est-à-dire de revisiter l'histoire, de parler de la Seconde Guerre mondiale, de parler de ce que serait aussi la montée de l'extrême droite aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un truc très artificiel quand on connaît le cinéma de Léos Carax, c'est quand même pas un cinéma très politisé, qui est un cinéma quand même de dandy, d'esthète, un petit peu hors sol, pour dire les choses ainsi. Et ça, je trouve ça pas très convaincant quand justement ce n'est pas lui, qu'il essaye d'être un autre cinéaste que lui-même. Mais en revanche, il y a des effets de montage que je trouve parmi les plus réussis de sa filmographie. Et ce qui est très curieux, c'est que même si c'est un film très court, qui est un peu délié, qui est une suite de rafistolages et de raccords, j'ai l'impression que c'est peut-être le film qui contient le plus d'idées et le plus d'inspiration des derniers Léos Carax. Et donc, il y a quelque chose d'assez réjouissant de voir ce petit bricolage d'auteur très amusant, très ludique, présenté dans le cadre du Festival de Cannes.